et qu'on puisse garder, eh bien, c'est, ça va être le thème de mon prêche, c'est le premier amour. Mais ce n'est pas que ça. Je suis en train de chercher. Hop. Et voilà. Juste deux petites secondes, le temps que ça se connecte avec mon ordinateur. Voilà. Est-ce qu'on y est? Est-ce que ça va fonctionner? Le thème de mon prêche aujourd'hui, c'est Check TX Input Signal. Le thème de mon prêche aujourd'hui, c'est « Et demain ?» Point d'interrogation. Je le fais bien, le point d'interrogation. « Et demain ?» La semaine dernière, et c'est, j'aimerais, je ne sais pas si l'image va finir par arriver, mais je pense que oui. La semaine dernière, j'ai reçu une image et je ne l'ai pas partagée. Je ne sais pas, le culte s'est déroulé de telle sorte que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais dans mon image, j'ai vu un champ de blé. Vous voyez ce que c'est un champ de blé et, en plein été, vous avez les blés qui sont en fleurs. Et quand le vent souffle, ça fait une jolie vague. Et vous voyez les blés qui virevoltent et qui se penchent parce que le vent les pousse, etc. etc. Et Dieu me disait, voilà, moi, mon souffle est là. Mon souffle, le souffle de mon Saint-Esprit est là. Et à partir du moment où il y a toute cette unité avec le vent qui souffle, eh bien, ça fait cette belle vague. C'est-à-dire que Dieu a vraiment envie que l'on puisse baigner dans le souffle de son Saint-Esprit. Il a vraiment envie de ça, il a vraiment envie que nous en tant que blé, et la semaine dernière encore Antoine a parlé de ça avec la parabole du semeur, une graine va germer, en fonction de la terre qui est en dessous, la graine va germer et puis ça va donner une belle plante. Alors imaginez n'importe quelle plante que vous aimiez, mais c'est vrai que le blé c'est tellement beau parce que l'été, et là donc la vidéo que j'ai mis derrière mon prêche, il y a en plus du son que j'ai coupé parce qu'il y a les oiseaux qui chantent, etc., etc. Mais c'est tellement beau de voir les blés qui sont là et qui sont sous cette vague de chaleur, parce que souvent l'été on a un vent qui est chaud et ça permet au blé de pousser, de se faire du bien. Parce que les blés ont besoin de toutes les circonstances de la vie pour être nourris, pour pouvoir grandir. Mais le souffle du Saint-Esprit sur nos vies va permettre que, oui, on va pouvoir être, comme ce qu'a dit Paul tout à l'heure, on va se laisser bercer par la musique. Le souffle du Saint-Esprit, c'est la même chose. Il faut se laisser bercer par le souffle du Saint-Esprit. Parce qu'il est là pour faire du bien. Forcément, on a un Dieu qui est là pour nous faire du bien et qui a envie de nous faire du bien. Amen. Je vais lire, a priori, c'est... Je vais lire comme ça. Le thème de mon prêche est demain, c'est vraiment dans le sens de dire, aujourd'hui, voilà, je vais te poser la question, c'est quoi demain pour toi? Comment est-ce que tu vois demain? Qu'est-ce que c'est demain? Demain, alors moi je peux vous dire que demain, bon c'est vrai que c'est les vacances des enfants, donc je vais me lever peut-être un petit chouille plus tard, ça va être sympa, je vais pouvoir me reposer un petit peu. Je vais aller au bureau, j'ai des rendez-vous, je vais prendre ma voiture, je vais faire beaucoup de kilomètres, etc. Quoique demain, non, ça, oui, si, quand même. Mais et je connais à peu près ma journée. Mais c'est pas ça que je veux savoir. C'est pas la journée du lundi que je veux savoir. Dans le sens de « et demain », c'est le sens de dire « c'est quoi pour toi demain, après-demain, l'avenir ? C'est quoi aujourd'hui ton cœur ? Où est ton cœur ? Comment est-ce que tu vois ton avenir ?» Alors, il y en a certains qui vont tout de suite mettre la priorité sur le professionnel. Il y en a d'autres qui vont mettre la priorité sur le personnel. Moi, je vais me mettre au centre. Ou par rapport à la famille, au couple, aux enfants. Et puis, il y a ceux aussi qui vont se dire, mais moi, c'est ma vie, elle est avec Dieu, elle est avec Jésus. Et si je mets Jésus en haut de tout ça, en haut de la pyramide, on n'est pas dans un système pyramidal, je vous rassure. Mais à partir du moment où on met Jésus en haut et que c'est Jésus qui va prendre la direction de tout, eh bien, on va pouvoir avoir tout qui va découler de ça. Et quand je dis de ça, c'est quoi? C'est la présence de Jésus. Et c'est pour ça que dans mon prêche, il y a trois grands points que j'aimerais aborder. La notion de premier amour. Merci Thierry. La notion de premier amour. Ou l'amour, tout simplement, mais déjà le premier amour. C'est quoi le premier amour? Ensuite, mon deuxième point, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ou si je veux un peu généraliser, le nom en général. D'accord? Et puis après, dans un troisième point, et je ne pense pas avoir le temps de tout faire, je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais ça va être le principe de la parole. La parole. La deuxième diapo que je voulais vous passer, c'est une image que j'ai vue sur Facebook, c'est sur la page de la CLC, j'ai trouvé cette image assez sympa. C'est le principe de dire que la Bible, elle n'est pas là pour nous informer, elle est là pour nous former. Ouais ? La Bible n'est pas là pour nous informer, elle est là pour nous former. C'est pas mis dans ces termes-là, mais à la limite, ces termes sont même peut-être un peu mieux. Elle n'est pas là pour nous informer, elle est là pour nous former, la Bible. Et à partir du moment où on va être sur cette même base, vous et moi, eh bien, on va avancer. Et je ne doute absolument pas qu'on soit sur les mêmes bases. Parce que je pense qu'ici, pour la plupart, peut-être que certains ont quelques doutes, mais la base de l'enseignement de Jésus, tout est noté dans la Bible. Et à partir du moment où on part de la Genèse à l'Apocalypse, tout est bon. Rien n'est acheté dans la Bible. C'est vrai que des fois, on pourrait se dire, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi est-ce que dans la Bible, il y a les chroniques ? C'est vrai que les chroniques, c'est assez rébarbatif à lire. Pour d'autres, ça va être l'Apocalypse. Ou l'Apocalypse, il y en a qui disent, oh là là, il y en a, on a l'impression qu'ils ont lu que l'Apocalypse dans la Bible. Parce qu'ils sont en train de dire, oh là là, Jésus revient bientôt, et il faut absolument que je sois prêt, et s'il y revient... Et t'as pas lu que l'Apocalypse dans la Bible quand même. Il y en a d'autres livres qui sont assez sympas à lire. Quand on lit aussi, parfois on a l'impression qu'il y en a certains qui n'ont lu que les Actes des Apôtres. Oui, il faut qu'on revienne à l'Église primitive. Ouais, pourquoi pas. Mais est-ce que vraiment tu as lu les Actes des Apôtres entre les lignes? Il y a la persécution dans les Actes des Apôtres. Est-ce que tu es prêt à la persécution? Donc d'accord, je reviens sur ces bases, sur le principe de dire que la parole de Dieu est là pour nous former, nous enseigner, nous donner à la fois des choses pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. Oui ? La notion premier amour. Je vais lire deux chapitres dans la Bible. Oh là là, il y en a certains qui se disent « Oh là là, ça va être long, Fred. » Oui, ça va être long. Non, je ne vais pas tout lire. 1 Corinthiens 11. Je trouve que 1 Corinthiens est vraiment construit de façon merveilleuse. Je trouve que c'est vraiment un livre, moi je me délecte quand je lis les Corinthiens. Et c'est le 12, je suis en train de me tromper, c'est avec mon ordi. Voilà, le 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, ça commence bien, hein. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment ? Quand vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoyé vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Là, j'aime bien m'imaginer Paul. C'est bon ? Non, ça ne marche pas ? Bon, tant pis. J'ose imaginer Paul qui est devant là cette foule et qui enseigne devant des disciples, devant il y avait peut-être pas mal de monde. Et puis il a un ton qui est assez, peut-être à la fois ferme, mais tout en étant un formateur, quelqu'un qui va donner des préceptes, des concepts. Donc il parle de façon très libre, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Je vais arrêter là au verset 11. Et je vais partir tout de suite à la fin. Alors, c'est fou hein, quand on n'a plus ces notes sur... J'aime les derniers versets de ce chapitre-là. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ça, c'est le verset 27. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Ouais. Ah oui, non, mais c'est sur... Ouais, d'accord, c'est pas mon ordi, ça. C'est pas mon ordi. Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Vous l'avez lu, ça? Aspirez aux dons les meilleurs. Et ce que j'aime, c'est... Après, c'est la dernière phrase. Donc ça, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. On est à la fin du chapitre 12 et Paul dit « Je vais vous montrer une voie par excellence ». Et c'est là où j'en viens à mon premier point, l'amour. Parce que si on regarde bien, et vous le savez tous comme moi, dans la Bible n'a pas été écrite avec des versets et des chapitres. Ça a été mis bien plus tard par des moines ou je sais pas qui, mais c'est eux qui ont fait en sorte que l'on puisse avoir des références dans la Bible pour s'y retrouver. Et pas dire, voilà, ben, page 1112 et paragraphe 2. Non, on a la possibilité aujourd'hui de dire, voilà, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et là, on enchaîne sur le chapitre 13, le chapitre de l'amour. Pourquoi je dis ça? Parce que pour demain, eh bien, on se doit toujours de revenir au premier amour. Je ne vous cache pas que cette semaine, j'ai eu quelqu'un qui m'est très proche. Et cette personne, et j'en ai déjà parlé dans mon prêche la dernière fois, mais je continue à suivre cette personne. Cette personne ne sait plus comment réagir. Ça fait un an qu'ils sont mariés. Et sa femme vient de lui dire, « Je ne t'aime plus. Je n'ai plus de sentiments pour toi. » Et ça fait mal. Parce que cette personne m'est vraiment très proche. Et il fait tout pour récupérer l'amour de sa femme. Il fait tout pour récupérer son amour. Mais en fait, elle l'avait prévenu il y a quelques mois de ça, en lui disant, fais attention, le jour où je vais te lâcher, il n'y aura pas de retour possible. Et en fait, il se met tous les torts sur lui en disant, bah, c'est de ma faute, parce que je n'ai pas su préserver ma femme. Je n'ai pas su lui montrer mon amour, je n'ai pas su lui dire mon amour. Et aujourd'hui, il en paye les conséquences parce que sa femme, au bout d'un an de mariage, lui a dit, ça fait 8 ans hein, qu'ils sont ensemble, c'est pas des chrétiens non plus, hein, bon, voilà. Mais elle lui a dit, je ne t'aime plus. Et donc, il est là en train de désespérer, en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle continue à m'appeler mon cœur et y a des détails qui font qu'il s'accroche aux branches, aux brindilles. Mais le premier amour est l'amour qui était là, qui était au top, au début du mariage ou au début de leur relation, au fur et à mesure... a diminué, a diminué, a diminué, a diminué, pour arriver à un point zéro, ou quasiment à zéro, pour qu'un jour, un des deux conjoints dise « Je ne t'aime plus ». Qu'est-ce qui peut faire qu'on a l'amour qui diminue? La routine? Les habitudes? Le principe de faire toujours la même chose ou de ne pas dire certaines choses? Je l'ai déjà partagé, c'est vrai que moi, j'ai un défaut à ce niveau-là, je ne sais pas dire « je t'aime ». Je ne sais pas. J'y arrive pas. Je vais le dire de façon contournée ou je vais le montrer, mais je ne sais pas le dire. Mais ça n'empêche que ma femme et mes enfants savent que je les aime. J'espère. Elle aimerait bien que je lui dise plus. J'y arrive pas. Mais le principe de rester au premier amour, c'est quelque chose qui s'alimente. L'amour est quelque chose qui s'alimente. Et je ne vous cache pas que ce n'est pas une leçon que je vous donne, parce que moi-même, des fois, je ne sais pas l'alimenter, ou peut-être que Pascaline ne sait pas l'alimenter envers moi, effectivement. Mais le premier amour est quelque chose d'important, parce que forcément, quand on prend un thème comme celui que j'ai pris ce matin en disant « et demain ?» point d'interrogation. « Et demain ?» Forcément, dans cette notion de « et demain ?», il faut qu'on puisse garder cette notion de premier amour. Parce que si on garde cet amour avec Jésus, si on a un amour qui est constant avec Jésus, forcément, on va pouvoir continuer et dire « et demain ?» Et demain, ben oui, Jésus, je t'aime et je continue à marcher avec toi. Parce que mon feu est là et brûle pour toi. Ce premier amour est tellement important. Et donc, quand on lit le chapitre 13 de 1 Corinthiens, je trouve qu'il est construit de façon merveilleuse, ce chapitre. Je ne vais pas le lire, même s'il est rapide, il n'y a que 13 versets. Le dernier verset, c'est 13, le verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour ou la charité. En fonction des versions, ça peut être la charité ou l'amour. de ces trois choses demeure la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Et donc, j'ai essayé de parler avec cette personne en disant, mais et c'est difficile quand vous avez, je vais dire, la solution. Oui, je l'ai, la solution. Dernièrement, il m'a appelé, il m'a dit, dis donc, Fredo, parce que bon, bah, toute ma famille m'appelle Fredo, c'est vrai que tu es pasteur. Et je sais que quand il m'appelle, c'est parce qu'il y a un réconfort qui est là, pas forcément parce que c'est Fredo qui l'appelle. Mais c'est parce qu'il a, il sait qu'il y a quelque chose de plus. Et je lui ai donné cette solution. Je lui ai donné la solution. Même si je ne lui rabâche pas à toutes les fois où il m'appelle, je ne vais pas lui dire « Viens Jésus, viens Jésus ». Je devrais peut-être le faire. Mais je vais finir par le harceler et lui dire « Voilà, il faut que tu reviennes à Jésus. » Parce que c'est quelqu'un qui venait à l'église avant. Donc il connaît, il sait ce que l'on vit. Il sait que la solution, elle est là. L'amour. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? On pourrait prêcher très longtemps sur l'amour. Parce que même si on prend ne serait-ce que les premiers versets, « Quand je parlerai les langues des hommes et des sages, si je n'ai pas l'amour, je suis un bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science... » On vient de parler des dons juste avant, hein, dans le chapitre 11. D'accord ? Paul a bien dit, voilà, tout d'abord, il y a eu les apôtres, après il y a eu les prophètes, et après il y a eu les dons, hein, parce que voilà. Et il dit, voilà, mais même si je parle des langues... Mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Si je vais prophétiser, mais que je n'ai pas l'amour pour donner des prophéties, ça ne sert à rien. Ça résonne creux. Quand on donne des paroles de connaissance le matin, là, pendant un culte, ou même au téléphone quand on appelle des gens, s'il n'y a pas cet amour en nous, ça sonne creux. Forcément, ça se ressent. Comme quand on donne le principe à quelqu'un de dire au téléphone, il faut sourire, parce que le sourire s'entend au téléphone. C'est la même chose. Une prophétie, si tu la donnes avec de l'amour, forcément la personne qui est en face va le ressentir. Il m'arrive des fois de devoir reprendre des gens et dire, voilà, ce que tu as fait, c'est pas bien. Et je le dis avec le plus d'amour possible, en disant, surtout, ne m'en veux pas, c'est pas le principe de dire, je te corrige et je veux pas te mettre une fessée devant tout le monde. C'est le principe de dire, voilà, ce que tu as fait, on va le corriger. Il faut que ce que tu fais là, ce que tu as fait, ça porte un fruit. Et donc, il faut de l'amour pour ça. Et je pense d'autant plus sur certains ministères, comme le ministère du pastorat. Le pastorat, on se doit, et je pense qu'on est tous des serviteurs ici, on est tous à reprendre des fois des personnes, ou aller leur dire des choses, ou des fois dire des vérités, mais sans amour, ça sonne creux. Donc l'amour est important. Donc pour demain, oui, il faut de l'amour. Il faut de l'amour. Si... On parlait de Turning tout à l'heure et les dates là étaient les bonnes dans les annonces, donc dernier week-end de février. Mais quand on va faire Turning, je l'ai fait une fois, pour moi je vous ai déjà expliqué, ça n'a pas été glorieux. Mais voilà, hein, Étienne, il faut de l'amour pour aller voir les gens dans la rue. Quand on leur dit voilà, Jésus t'aime, si on arrive et qu'on fait la tronche, ça ne sert à rien. Parce que les gens ont besoin de ressentir ça. Les gens ont besoin de le ressentir. Bon, je sais que moi, je n'ai pas un physique déjà souriant. Je fais des efforts, mais c'est difficile. Vous me voyez sourire ? Non. Bon, d'accord. Tout le chapitre comme ça, il est... Voilà, c'est un très beau chapitre. Donc l'amour, le premier amour nous a été donné d'abord par Dieu. C'est d'abord Dieu qui nous a aimés. Parce que Dieu même, et c'est marqué dans la parole, à partir du moment où vous avez été conçu, Dieu savait déjà qui vous étiez. Dieu vous aimait déjà. Il savait pertinemment où vous alliez, qui vous alliez être et ce que vous alliez devenir. On a ce gros privilège et je l'ai déjà dit, mais je le répète, j'aime bien répéter les choses. Des fois, c'est bien de l'entendre. On ne naît pas chrétien. On ne naît pas chrétien. On le devient. On donne sa vie à Jésus à un moment donné dans sa vie, mais on ne naît pas chrétien. Mais par contre, et on l'a vu, Jésus l'a fait avec certains apôtres, Jésus les a appelés de certains noms. Et chacun ici, quand on est né, on a récupéré un prénom. D'accord ? On a récupéré un nom de famille. Pour certains, ça va être un surnom. D'accord ? Et c'est vrai que l'origine des noms, c'est ça. Je suis allé voir hier sur Internet et j'ai vu que dans l'histoire, la première chose qu'on a instaurée, c'est le prénom. La première chose qui a été instaurée, c'est un prénom, parce qu'il fallait qu'on puisse dire à un enfant, bah tiens, je vais pas te siffler parce que ça fait bizarre, je vais pas te crier dessus pour t'appeler, je vais, allez, on va essayer de faire en sorte que quand je vais dire quelque chose, tu vas pouvoir te reconnaître. Donc on va te donner un prénom. Les noms de famille sont arrivés après. Non, d'abord, il y a même les surnoms qui sont arrivés après. Et après, c'est le nom de famille qui a été arrivé. Et après le nom de famille, on a fait en sorte dans l'histoire que ça devienne héréditaire. Que ça devienne héréditaire. C'est-à-dire que moi, je m'appelle Pouliken, ou Pouliquin, si vous souhaitez. Pas Poulican, s'il vous plaît. D'accord ? À bon entendeur. Donc, je m'appelle Pouliken. Mon père s'appelait Pouliken. C'est un nom breton. Hein. C'est breton. En Bretagne, on dit Pouliquin. En dehors de la Bretagne, on dit Pouliken. D'accord ? Ok. On n'est pas en Bretagne, donc je vais dire Pouliken. D'accord ? Donc mon père s'appelait Pouliken, mes grands-parents s'appelaient Pouliken, etc. Jusqu'à un moment donné, on a dit, voilà, il faut que vous preniez un nom. C'est-à-dire que si on remonte dans l'histoire, à un moment donné, il a fallu dire, bah, moi, en Bretagne, parce que voilà, ma généalogie, c'est en Bretagne, eh bien tiens, on va parler de la... Tiens, Pouliken, c'est bien. Ou Pouliquin, tiens, puisqu'on est en Bretagne. Et j'ai jamais réussi à avoir la signification de mon nom, mais soi-disant que ça a trait avec la marine, avec de l'eau tarie. Pas l'otari, l'otari, en deux mots. D'accord ? Je la fais bien l'otari aussi, comme le point d'interrogation. Ouais, je la refais un autre jour. Donc je ne suis pas une otari, le premier qui m'appelle otari. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai eu le privilège de porter le nom que Jésus me donne. Il m'a donné un nom. Il me connaît par mon nom. Il sait qui je suis. Il me connaît personnellement. Il me connaît sous toutes les coutures. Même s'il y en a qui craquent. Mais il me connaît sous toutes les coutures. Il sait où je suis. Il sait ce qu'il veut pour moi. Il sait ce qu'il va faire pour moi. Et donc, je suis capable de dire, et demain ? Et demain ? Bah demain, oui, bah je sais que je vais continuer, et du moins je vais essayer, mais je vais réussir, parce que les épreuves sont là pour nous tirer vers le bas. Mais mon objectif, c'est de pouvoir faire toute ma vie avec Jésus. Je ne dis pas qu'une épreuve peut, à un moment donné, me faire tomber. Effectivement, je l'ai déjà vécu. L'objectif, c'est de pouvoir dire, « Ok, Jésus, là je suis dans l'épreuve, je te lâche, mais je reviens, je suis là, je bouge pas. » J'ai toujours des fois tendance à me poser la question si demain je me retrouvais, bon ça arrive hein, maintenant en ce moment, vous savez qu'il y a pas mal de persécutions dans le monde sur les chrétiens, hein. Mais comment on réagit quand on est sous la persécution ? Quand on te dit renie ton Dieu, et à côté de ça on te fait bien mal sur ton corps, est-ce que pour éviter la souffrance on est capable de renier Dieu ? À quel niveau de souffrance on est capable de dire non, je renie pas mon Dieu ? Et puis à quel moment est-ce que la limite fait qu'on dit ok, j'ai tellement mal ? Même si je pense que Dieu est avec nous dans tous les moments de la vie, y compris dans cela et surtout dans cela. Portez le nom de Jésus. À partir du moment où même Jésus, quand il est venu sur terre, on lui a donné un nom, un prénom. D'accord ? C'est même un ange qui est venu voir Marie pour lui dire bah, « Cet enfant, tu l'appelleras. » Voilà. Donc ça, c'est le grec « l'ego ». Ce n'est pas les petites briques hein, qu'on monte. L'ego. Le fait d'appeler quelqu'un, c'est l'ego. Et de l'ego est arrivé aussi, on a dérivé pour arriver au logos. Et le logos, c'est le troisième point de mon prêche. La parole. La parole. La parole logos. Tout a été créé par la parole. Ça, tout le monde le sait. Tout a été créé par la parole. Apocalypse 12, 10. Apocalypse 12, 10. Peut-être que tu vas être plus rapide que moi. Eh bien, non. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. » Le verset 11. Je t'ai dit juste 10, ouais, pardon. Le verset 11. « Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, ou aller jusqu'à la mort, en fonction des versions. La parole est importante. Et c'est là aussi où je veux en venir pour « et demain ». Parce que la parole est quelque chose qui, et je l'ai déjà prêché ça, mais c'est tellement important, c'est un point tellement important. Il faut faire absolument attention, et la Bible, à plusieurs reprises, parle de la langue, parle de la parole, parle de la confession, parle de la prière, parle de, du principe de, oui, de confesser quelque chose, de proclamer quelque chose. Et pour ça, la parole a une importance, si vous saviez à quel point. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on met une telle importance sur la prière ? Pourquoi est-ce que Jésus dit, voilà, ma maison sera appelée une maison de prière ? La prière, il y a toutes sortes de prières. Mais c'est vrai que celle qu'on connaît en majeure partie, c'est le principe de verbaliser nos prières. Et pourtant, même avant que l'on prie, Dieu connaît nos pensées. Il sait pertinemment ce que l'on va prier. Il connaît tous les sujets que l'on va lui apporter. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin qu'on verbalise nos prières ? Parce que c'est important de pouvoir extérioriser quelque chose, de pouvoir dire « Seigneur, moi je ne suis pas seulement voilà, quelqu'un qui prie dans, dans ma tête. » Là je prie. Hein. Non, Jésus il a besoin de plus, il a besoin qu'on verbalise. Il y a aussi le principe de dire que le diable n'entend pas ce qu'il y a dans votre tête. Le diable n'a pas ce pouvoir. Donc si vous verbalisez quelque chose en disant « Seigneur, moi, en ton nom, je proclame la guérison », le diable entend ça. Par contre, si vous le dites dans votre tête, le diable n'entend pas. Et donc le principe de verbaliser des choses, il faut faire attention parce que ce qui sort de la bouche peut être dangereux à la fois pour vous ou pour les autres parce qu'on va lier des gens et on va en délier eux également. C'est pour ça qu'il y a aussi l'imposition des mains et le principe de guérir les gens, mais par rapport à une prière. Parfois, ne serait-ce que de poser sa main, ça va guérir les gens, mais souvent, il est important de prier et de pouvoir verbaliser. Et moi, ça m'arrive quand je prie pour les gens, de leur dire « Pourquoi tu veux que je prie pour toi ?» Parce que je veux que la personne verbalise, qu'elle puisse dire, qu'elle puisse extérioriser. Voilà, aujourd'hui, je souffre du genou gauche. Si elle ne me le dit pas, « Seigneur, bénis cette personne, guéris-la, toi, tu sais où c'est. » Oui, mais par contre, si je cible ma prière, si je suis capable de dire « Voilà, c'est le genou gauche qu'on veut guérir. » Il faut pouvoir être précis avec Dieu. La parole est importante. Et Dieu nous a montré la voie, puisqu'il a tout créé, ne serait-ce que sur sa parole. Vous pouvez reprendre toute la Genèse. Dieu veut absolument que l'on puisse verbaliser des choses. Et ça, c'est important. La prière, la confession. On parle souvent, et surtout dans mon métier, de tout ce qui est verbal et non verbal. D'accord ? Mon attitude... J'ai une attitude qui va parler à certains d'entre vous. Le fait que je piétine, je sais que ça en use certains. Parce qu'il faut que je bouge. Je ne peux pas rester comme ça derrière un pupitre et vous parler. Parce que ce n'est pas moi. Par contre, j'ai besoin de verbaliser quelque chose. Et le fait de le verbaliser, ça va être de la gestuelle. La verbalisation, pour moi, elle passe aussi par mon corps. Quand je vais dire un truc et que je vais croiser les bras, c'est que je me ferme. Parce que la parole, elle ne va pas avec la verbalisation de mon corps. Mais pour ça, c'est important. Et c'est aussi là où je veux en venir, c'est qu'il y a des personnes, quand vous les écoutez parler, elles se lient elles-mêmes. Elles se lient elles-mêmes. Parce qu'en elles, il faut absolument qu'il puisse y avoir cette communion avec Dieu, avec Jésus. Et c'est vrai que le premier amour est important, c'est-à-dire revenir à Jésus, connaître son amour, pour pouvoir être enseigné par lui, pouvoir se plonger dans la parole et de pouvoir dire, « Ok, Seigneur, enseigne-moi pour que ce que je vais sortir de ma bouche, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, la semaine dernière et la semaine avant, on nous a enseigné sur le royaume de Dieu. Et tous ici, nous sommes. Nous faisons partie du royaume de Dieu, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. » Et parfois, il y a des choses qui sortent de la bouche de certaines personnes où on se dit, « Waouh, waouh, waouh !» Fais attention, parce que ce que tu dis là, c'est pas bon. Ça m'arrive des fois de dire à des gens, ce que tu dis là, c'est pas bon. Fais attention, parce que tu vas te lier. Au boulot, j'ai une collègue, je vais parler de ma collègue, elle a toujours quelque chose. Franchement, elle me fatigue. Elle est gentille, hein, attention, elle est très gentille. Hein, mais elle me fatigue. Elle a toujours un truc, un mal quelque part. À ce moment, elle a la guigne, elle a la poisse. Elle a une série. Elle arrive au bureau. Ah, je dois avoir une série parce que là, j'ai vraiment la poisse. Ah, puis ça fait une semaine que je suis malade et tout. J'ai envie de lui dire, mais arrête, quoi. Écoute-toi parler. Je vais finir par le dire. En plus, c'est une personne qui coupe la parole constamment. Vous ne pouvez pas en placer une. Vous commencez à parler, elle vous coupe la parole et elle est partie dans autre chose. Mais si elle s'écoutait parler, et un jour, je vais devoir lui dire, en disant, mais écoute-toi parler. Fais attention à ce que tu dis. C'est vrai que nous, on a des fois des réflexes. En tant que chrétiens, on sait pertinemment, et la Bible nous l'a enseigné, que la langue, c'est comme le gouvernail d'un bateau. Hein. Le gouvernail est tout petit, mais il va diriger un bateau qui est gros, comme ce n'est pas permis. Hein. J'ai vu un client vendredi, il avait un gros bateau. Et un gros bateau, ben, ça a aussi un gouvernail, quel qu'il soit. Et ben, la langue dans votre corps, elle est idem. En fonction de ce que vous allez dire, elle va diriger votre vie. Elle va diriger votre vie, réellement. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. On pourrait toujours reprendre le verset de Jérémie 29, 11, en disant, voilà, j'ai des projets pour toi, des projets de bonheur et non pas de malheur. Tout le monde connaît ce verset, Jérémie 29, 11. On peut le reprendre et le reprendre et le reprendre. Et il est vrai ce verset, parce que Dieu veut le meilleur pour vous. Il veut le meilleur. Et c'est pour ça que j'ai voulu associer ce matin ces trois points. L'amour, le nom que vous portez. Soyez fiers du nom que vous portez. Soyez fiers du nom que vous portez. Donc le nom et puis la parole. Ces trois choses sont pour moi importantes. Parce que c'est elles qui vont vous donner aussi des sources. Alors bien évidemment, je pourrais aborder le principe de la foi. Parce que toute la Bible est tracée sur le principe de foi. La foi, j'ai prêché à plusieurs reprises dessus. Elle est importante, la foi, la foi, la foi. Il faut absolument vivre par la foi. Mais à quel niveau? À quel niveau? Il y a des ministères qui vivent par la foi. Vous prenez Vincent Esterman, il vit par la foi. Et Dieu a toujours pourvu à ses besoins. Vous avez des ministères comme ça qui ne vivent que par la foi. L'amour, le nom, la parole. Ésaïe 41:10. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. C'est pas une belle promesse, ça? Est-ce que ça, c'est pas une belle promesse? Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Dernièrement, j'ai connu une personne qui, c'est toujours une personne de mon entourage, mais qui a donné sa vie à Jésus. Et puis un jour, elle m'a envoyé un SMS, cette personne, en me disant, voilà, Dieu, c'est pas pour moi. Je lâche tout et c'est pas pour moi. Et sur le coup, c'est vrai que j'ai pas répondu. Et je pense que je lui dirai en face, quand je la reverrai, cette personne. Mais c'est pas parce qu'on lâche Dieu que Dieu nous lâche. Ce n'est pas parce que vous lâchez Dieu que Dieu vous lâche. Au contraire. Dieu a toujours un œil sur vous. On a le privilège, on a un Dieu qui est un Dieu gentleman. Ça se dit comme ça en anglais, hein, gentleman. Nous, on dit gentleman. On a un Dieu gentleman, c'est-à-dire qu'on a le libre choix. On a le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. On a le choix de lui donner notre vie ou de ne pas lui donner notre vie. C'est dur à dire ça. Ou le choix de ne pas lui donner notre vie. Voilà, ça va mieux. On a le choix de suivre ce que la parole dit ou de ne pas suivre ce que dit la parole. Cette semaine, j'étais en rendez-vous avec une dame et je ne sais plus comment c'est venu à dire. Donc la dame, elle était avec sa crapotette et machin, et puis voilà, dans son jargon bien fleuri. À un moment, elle dit je suis très croyante. Ok. Ne serait-ce que dans son comportement, elle peut être croyante, oui. Mais il y avait un manque d'obéissance par rapport à ce qu'elle disait. Elle est en train de me dire, je suis très croyante, et là, je suis d'accord. C'était une dame qui disait, oui, voilà, moi je donne parce qu'on rénove le carillon de l'église, etc., machin, pourquoi pas. Mais dans sa façon non-verbale d'être, eh ben, le témoignage n'était pas là. Mais par contre, je pense que Dieu voit ce qu'elle est, voit qui elle est. Et à partir du moment où il y a cette démarche avec Dieu, j'espère que je ne pouvais pas lui parler parce que j'étais avec un collègue, etc. Mais j'aurais bien aimé lui dire, écoutez, moi, on peut en parler si vous voulez. On peut en parler. Je l'ai déjà fait avec des clients. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ésaïe 41:10, ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Je suis avec toi. À partir du moment où la parole nous le dit, si vous confessez le nom de Jésus-Christ, ben vous êtes avec Jésus-Christ. Vous êtes avec Jésus-Christ. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr. Je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Donc si on revient à Corinthiens 13, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Mais faisons attention dans notre comportement, dans notre façon d'être, de pouvoir transpirer cet amour. Et aussi que Dieu puisse agir en nous et qu'il puisse changer des choses qui parfois vont être des obstacles à la bonne marche. Parce qu'il faut toujours avoir en tête de ce « et demain ?» Et demain, point d'interrogation. Et demain, point d'interrogation. Donc maintenant, si je vous repose la question, c'est quoi demain pour vous ? C'est quoi demain pour vous ? Est-ce que demain, c'est le principe de dire ben, « Tiens, il faut que je cherche un nouveau travail. Il faut que j'aille chercher une baguette de pain. » Est-ce que... Je voulais, dans mon PowerPoint, j'ai mis une citation de Victor Hugo qui dit « Aujourd'hui est le premier jour de la fin de ma vie. » C'est ça ? Le premier jour de la fin de ma vie. Alors c'est de Victor Hugo, il y en a qui le donnent à d'autres, mais bon, c'est de Victor Hugo. Mais si on considère qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de la fin de ma vie, oui. C'est pas comme ça que c'est dit. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie, du reste de ma vie. C'est mieux. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Parce que ce que je voudrais, là ce matin, c'est qu'on puisse prendre conscience de se dire « Et demain ?» Et demain ? Et demain ? Moi, je suis heureux de voir tous ces projets qui sont là dans l'Église. J'aime être dans l'Église. Parce que je sais qu'on a une Église qui marche. On a une Église qui fait un pas après pas. On a une Église qui fait des projets. On a des choses qui vont se mettre en place. On a des projets de travaux qui vont se mettre en place. Vous voyez, mercredi, il y a l'aménagement qui va être fait dans la salle en haut pour les enfants. Il y a pas mal de choses. Il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger. Et ça, c'est beau de voir ça, parce que je sais que l'Église est en marche et qu'à partir du moment où on est là et qu'on a envie de marcher pour Dieu, et bien voilà, c'est bien. On a plein de choses et je vous encourage vraiment à pouvoir vous engager encore plus dans l'Église, parce qu'on a besoin de vous. Parce que le nom que vous portez n'est pas forcément le nom pour vous tout seul, c'est le même pour nous tous quelque part. On a un nom de famille qui est celui de Dieu, parce que c'est dit dans la parole qu'on est co-héritier avec Jésus-Christ. On est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. La Bible nous dit qu'on est, on fait partie du corps de l'Église, de l'épouse de Christ. Ouais. Je vais m'arrêter là. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. On va se lever, on va prier. Oh, Jésus. Seigneur, je te remercie pour cette parole que tu nous as laissée, ta parole, la Bible, Seigneur, ce livre qui parfois est un livre qui prend la poussière sur une étagère, mais aussi un livre qui s'use et pour lequel on est obligé d'en racheter un parce qu'on aime être plongé dedans, etc. Mais je te remercie, Seigneur, parce que les principes qui sont dedans, les préceptes qui sont dans ta parole sont tellement bons. Seigneur, c'est vrai qu'on pourrait prendre tous les points dans tous les sens, que ce soit, Seigneur Jésus, au niveau de l'amour, au niveau du nom que tu nous as donné ou que tu nous donnes, que ce soit, Seigneur, au niveau de la parole, au niveau de la foi, à tout niveau, Seigneur Jésus, quand on tourne les pages, eh bien, il y a des principes qui sont là, qui sont tellement bons. Et à partir du moment où ces principes, on les met en place, Seigneur Jésus, eh bien, c'est toi qui vas abonder, Seigneur Jésus. Tu vas abonder sur des choses, sur une action que l'on va faire dans nos vies. Et je te loue, Seigneur, pour ça. Je te loue parce que, Seigneur, tu vas faire en sorte que dans nos cœurs, aujourd'hui, on puisse avoir des choses qui se passent dans nos vies, Seigneur, et je veux prier pour tout le monde ici, maintenant. Je veux, Seigneur, te réclamer à ce que des choses puissent bouger dans nos vies, que, Seigneur, tu puisses te révéler, tu puisses faire que, à chaque moment, à chaque instant, Seigneur, on puisse voir ta main, ta gloire, qu'on puisse voir, Seigneur, que c'est toi qui agis. Et Seigneur, que tu puisses aussi permettre à ce que tous les projets qu'on a dans nos vies puissent être déposés au pied de ton trône. Parce que Seigneur Jésus, c'est toi, Seigneur, qui dois donner l'aval sur tous nos projets. C'est toi, Seigneur, c'est toi qui dois être l'empreinte de nos pas. C'est toi, Seigneur, qui dois faire en sorte que, eh bien, on puisse être axé sur toi. que l'on puisse toujours venir à la source, à ce premier amour qui est tellement important, Jésus. Fais en sorte que l'on puisse chacun ici garder ce premier amour. Garder le premier amour, celui du jour où on t'a connu, Seigneur, où on a dit « Oui, je te donne ma vie ». Renouvelle en nous, Seigneur, un esprit bien disposé. Renouvelle en nous, Seigneur, eh bien, des choses, Seigneur, un feu ardent, Seigneur, ce feu qui permet à ce que l'on puisse changer. Vraiment, je te loue, Seigneur, parce que tu es un Dieu glorieux. Tu es un Dieu, Seigneur, qui est bienveillant. Tu es un Dieu qui veut absolument que, eh bien, on puisse avoir le meilleur. Parce que je sais, Seigneur, que tu as des projets de bonheur et non pas de malheur pour nous. Tu as des projets de bonheur, Seigneur. À partir du moment où on recherche ta face, premièrement, eh bien, Seigneur, toi, tu as des projets pour nous et je te loue, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. S'il y a des personnes ici qui n'ont plus ce premier amour, qui voudraient vraiment revenir à une source, qui veulent revenir, et c'est vrai que la parole que je donnais tout à l'heure, ou même celle que donnait Thierry ou même Vincent, elle est importante. Et il y a peut-être des personnes ici qui ont été touchées par ces paroles, qui ont peut-être senti le besoin, là, par cette prédication qu'ils viennent d'entendre, qui ont besoin de dire « Oui, Seigneur, je reviens à toi pour un premier amour. » Parce que la source, elle est tarie. La source, il y a forcément un obstacle. Si la source, elle n'est plus là, qu'elle ne coule plus dans vos cœurs, c'est qu'il y a forcément un obstacle. Et cet obstacle, il faut qu'on l'enlève. Il faut qu'on le démolisse. Donc si tu te sens aujourd'hui que c'est pour toi, si vous sentez que c'est pour vous, approchez-vous, on va prier pour vous. Et croyez dans votre cœur que Dieu va agir. Croyez dans votre cœur que Dieu va agir.